Frères et sœurs, dans ce passage d'évangile que le diacre Daniel vient de nous proclamer, saint Marc réunit trois épisodes qui se déroulent en une même journée de la vie de Jésus et en un même lieu, à la maison, c'est-à-dire chez Pierre à Capharnaüm. Unité de temps, unité de lieu, vous connaissez. Et Jésus y fait face à trois protagonistes. Il y a la foule, d'abord, enthousiaste à la nouvelle des nombreux miracles que Jésus a accomplis récemment en Galilée, qui est émerveillée par l'autorité de ce prophète qui annonce le royaume. Et cette foule presse Jésus au point que lui et ses disciples, nous dit Marc, ne peuvent même pas prendre leur repas. L'enthousiasme. Ensuite, il y a la famille de Jésus, beaucoup plus réservée, décontenancée même par ce succès inattendu. Cette famille qui, on sent inquiète des risques pour sa tranquillité et pour sa réputation. Et donc, elle s'arrange pour faire passer Jésus pour déranger. Il a perdu la tête. Bon. Sympathique comme traitement familial. Et puis enfin, il y a les scribes qui sont venus de Jérusalem pour enquêter au sujet de Jésus. Et eux sont franchement hostiles à Jésus puisqu'ils lui reprochent d'avoir violé le Shabbat et rien de moins que de se prendre pour Dieu puisqu'il prétend pardonner les péchés. Alors, frères et sœurs, dans laquelle de ces trois catégories nous reconnaissons-nous spontanément? Les enthousiastes, les effarouchés, les adversaires. Ce qui doit nous alerter, sinon nous inquiéter, c'est que les adversaires, les scribes, sont ceux-là même qui se disent du parti de Dieu, ceux-là même qui croient défendre les droits et la vérité de Dieu. Et c'est justement à l'endroit de ces gens très religieux que Jésus adresse ce terrible avertissement. Tous les péchés pourront être pardonnés, sauf un seul qui ne le sera jamais. Quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint, nous dit Jésus, n'aura jamais de pardon. Et Jésus insiste pour qu'on comprenne bien, il est coupable d'une faute éternelle. Nous qui croyons bien connaître des affaires de Dieu, nous sommes un peu les spécialistes dans la société d'aujourd'hui, les cathos de service, nous croyons bien connaître son infinie miséricorde, ne sommes-nous pas tentés spontanément de ne voir là qu'une certaine exagération littéraire et, à l'exemple des scribes, de croire que nous savons mieux que Jésus ce qu'il en est de la miséricorde de Dieu, de croire que Jésus va trop loin? Dieu finira bien par pardonner tous les péchés à tous les pécheurs. Comme pour nous rassurer, remarquons que Jésus n'adresse aucune menace à sa famille. Cette menace est destinée aux scribes. Mais vis-à-vis de sa famille qui le traite de fou, Jésus ne fait aucun reproche. Comme si Jésus pardonnait à l'avance à sa famille son erreur de jugement. Bon, Jésus n'est pas fou. Comme si Jésus pardonnait d'avance son ignorance ou les peurs de sa famille. Et après tout, ne sommes-nous pas, nous aussi, de la famille de Jésus? Alors qu'en est-il de ces différents péchés qui nous guettent? Il est facile de faire rentrer l'attitude de la famille de Jésus dans cette catégorie que l'on appelle les péchés d'ignorance ou de faiblesse. C'est-à-dire des péchés que l'on commet parce que l'on peine à saisir en toute sa profondeur la vérité du bien dont le Satan vient couvrir à nos yeux ce qui est mal. Il vient recouvrir le mal d'une apparence de bien. Et c'est ainsi qu'Adam et Ève, nous l'avons entendu, se sont laissés égarer par le serpent. Péché d'ignorance, ou encore péché que l'on commet par faiblesse, parce que, tout en sachant ce qui est bien, et en voulant fondamentalement l'accomplir, nous n'y parvenons pas du fait de la fragilité de notre volonté que le péché originel a profondément désordonné, comme une boussole qui a perdu le nord. Et ces péchés peuvent être très graves, car ils nous coupent de la vie de Dieu. Mais le Seigneur n'attend qu'une chose vis-à-vis de ces péchés, nous les pardonner. Pour autant que nous venons les confesser, pour autant que nous venons humblement lui en demander pardon. Le péché ou blasphème contre l'Esprit-Saint, lui, est infiniment plus grave. C'est ce péché que Jésus vient démasquer chez les scribes. De quoi s'agit-il ? Les scribes savent très bien que Jésus a accompli de vrais miracles, des miracles étonnants, comme la guérison de paralytiques, de lépreux, l'expulsion de démons. Mais au lieu, comme les foules, d'y voir le signe que c'est Dieu qui agit à travers cet homme, et donc de venir écouter son enseignement et recevoir son enseignement, ils usent de mensonges et de désinformation en prétendant, je cite, que c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. C'est ça que prétendent, c'est la désinformation des scribes, ils chassent les démons par la puissance du Satan. Oui, il accomplit des miracles, mais il le fait parce qu'il est possédé par un esprit impur. Et pourquoi invente-t-il ce mensonge ? Donc peut-être ils finissent d'ailleurs par se convaincre. Parce qu'ils ne veulent pas que ce que dit Jésus soit vrai. Ils veulent tordre la vérité. Ils veulent que cela soit faux. Ils manipulent la vérité pour faire en sorte que Dieu dise ce qu'eux-mêmes veulent que Dieu dise et que Dieu fasse ce qu'eux-mêmes ont décidé que Dieu doit faire au lieu de se laisser instruire par l'Esprit de Dieu. Alors regardons comment Jésus débusque cette fausseté des scribes en y reconnaissant ce péché contre l'Esprit-Saint qui est irrémissible. Ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne nous apprend pas ici, comme il le fait toujours ailleurs, à écouter Dieu, à prier Dieu, à aimer Dieu et notre prochain, à faire le bien. Non, ici, il veut nous apprendre à réfléchir, à raisonner. Car le chrétien, pour grandir dans la vie chrétienne, n'est pas dispensé de raisonner, de faire travailler ses méninges. Regardons comment procède Jésus. Les scribes prétendent que Jésus agit par l'autorité de Satan. Qu'est-ce que leur rétorque Jésus ? Réfléchissez, si j'expulse les démons au nom de Satan, comment Satan pourrait-il s'expulser lui-même ? Comment pourrait-il se faire la guerre à lui-même ? Vous êtes témoin que j'ai expulsé des démons. Vous reconnaissez que je l'ai fait. Vous savez très bien que Dieu seul a pouvoir sur les démons. Vous savez donc que ça ne peut pas être au nom de Satan que je fais ces choses. Et vous savez donc que si j'ai réussi à expulser des démons, c'est que d'abord j'ai ligoté Satan. Car personne ne peut venir délivrer les hommes sur lesquels Satan a mis la main, en les possédant par ses démons, s'il n'a pas d'abord ligoté Satan lui-même. C'est la parabole de l'homme fort. Jésus est venu ligoter Satan en résistant aux tentations au désert. Donc si j'expulse les démons, c'est que je suis plus fort que Satan. Voilà comment Jésus leur démontre la fausseté de leurs propos. Vous trafiquez la vérité, leur dit-il. Vous résistez à la vérité que révèle l'Esprit avec évidence. Pourquoi ? Parce que cette vérité vous dérange et que vous préférez refuser le vrai plutôt que de sacrifier vos préjugés, sacrifier votre confort affectif, religieux, social. Voilà, frères et sœurs, la première caractéristique du péché contre l'Esprit-Saint, ce péché irrémissible. Refuser de reconnaître la vérité, refuser de confesser la vérité, alors même que cette vérité vient de l'Esprit-Saint. Deuxième caractéristique du blasphème contre l'Esprit, c'est que l'Esprit n'est pas simplement esprit de vérité, il est aussi esprit de feu, d'amour et de miséricorde. Pécher contre l'Esprit, c'est refuser la miséricorde de Dieu, refuser la révélation de l'amour par lequel Jésus vient sauver les pécheurs. C'est refuser la rémission des péchés que l'Esprit pourtant vient répandre en nos cœurs. Les scribes se scandalisent parce que Jésus guérit les malades le jour du Shabbat. Ils se scandalisent parce qu'il pardonne les péchés. Ils se scandalisent parce que Jésus mange à la table des publicains et des pécheurs. Les scribes se croient bien portants et n'estiment n'avoir besoin ni de médecin ni de pardon. Aussi refusent-ils de reconnaître le médecin qui vient au secours des pécheurs, alors même que les pécheurs, eux, savent qu'ils ont besoin de pardon. De même que Satan et tous ses mauvais anges, dès l'origine, n'ont pas voulu dépendre de la grâce de Dieu, mais ont voulu devenir parfaits par eux-mêmes, de même les scribes refusent que l'Esprit de Dieu vienne répandre la miséricorde de Dieu sur les pécheurs. Alors, frères et sœurs, avons-nous assez réfléchi sur notre situation ? Avons-nous choisi de quel côté nous nous reconnaissons ? Du côté des scribes, de ceux qui croient tout savoir sur Dieu, mieux que Dieu, qui refusent la miséricorde et pèchent contre l'Esprit Saint ? Ou du côté de sa famille, souvent désorientée, fragile, pécheresse, qui pèche souvent par faiblesse et ignorance ? À la fin de notre péricope, vous l'avez remarqué, la famille qui avait commencé par le traiter de fou, elle revient vers Jésus, après qu'il ait réfuté les scribes. « Voici que ta mère, tes frères, tes sœurs sont là dehors, qui te cherchent ?» Cette fois, il n'est plus question de traiter Jésus de fou, seulement de le chercher. Et Jésus lui-même nous invite alors à rejoindre la famille de tous ceux qui le cherchent, lui, Jésus. « Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là, c'est mon frère, ma sœur, ma mère. » Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement lui obéir parfaitement, comme les scribes croient l'avoir fait. Ce n'est pas accomplir exactement tous ses commandements. C'est d'abord et avant tout écouter Jésus, accueillir sa parole, reconnaître les miracles qu'il accomplit, contempler la manière dont il agit envers les pécheurs, que nous sommes tous. C'est surtout demander son aide et recevoir son pardon. Ne soyons pas comme les scribes qui savent mieux que Jésus ce que veut Dieu pour eux, qui, à l'exemple de Satan, décident à la place de Dieu de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. N'allons pas trafiquer la loi de Dieu, que ce soit la loi naturelle ou la loi nouvelle, l'une et l'autre enseignées par l'Esprit de Dieu. N'allons pas regarder de haut le pardon de Dieu, croyant que nous n'avons pas besoin, ou pire encore, que nous pouvons nous le donner à nous-mêmes sans passer par l'Église, tel que nous l'aurons décidé. Voilà donc quel est ce péché irrémissible. Le pardon ne sera impossible que pour ceux qui, sciemment, auront refusé la vérité de Dieu et auront méprisé son pardon. Et Jésus nous révèle un moyen très sûr pour nous préserver toujours de ce péché, c'est l'humilité du cœur. L'humilité ne nous prémunit pas contre tous les péchés, elle ne nous préserve pas de tous les péchés d'ignorance ou de faiblesse que nous pouvons commettre chaque jour. Mais l'humilité nous garde absolument du seul péché qui n'aura jamais de pardon. L'humilité de l'intelligence nous pousse à accueillir en toute son ampleur la vérité que Dieu nous révèle, non pas celle que nous fabriquons, mais celle que par son Église, Dieu vient nous révéler infailliblement. Ne la trafiquons pas, ne la réduisons pas à nos vues humaines. Et l'humilité du cœur nous conduit sans cesse à chercher refuge dans la miséricorde de Dieu, quels que soient nos péchés, en accueillant inlassablement la grâce de son pardon. Ainsi soit-il.